Apocalypse, chapitre 21, versets 10 à 23. Peut-être pendant la lecture, vous êtes dit, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il n'y a que des listes de pierres précieuses, la nouvelle Jérusalem, la mesure de la muraille. Est-ce qu'elle a sa place dans la Bible? Oui, c'est une question qui est normal. Le livre de l'Apocalypse, il faut le savoir, c'est un livre codé. D'où l'importance de faire une lecture très métaphorique et une lecture codée pour ne pas se tromper, dans la compréhension du message. Il faut d'abord savoir que ce livre a été écrit dans un contexte très difficile, c'est-à-dire de persécution des chrétiens. Alors, quand il y a une persécution, le livre a été écrit en utilisant des codes pour que les Romains ne puissent pas comprendre le message. C'est pour cette raison. C'est un peu comme, en faisant un petit parallèle, un peu l'histoire entre la marque Apple et le FBI, si vous suivez l'actualité dans l'affaire de l'attentat de San Bernardino, il fallait avoir le code pour débloquer le téléphone des assassins pour savoir la vérité sur le dossier. Et rappelez-vous, la marque Apple a refusé de donner le code sous prétexte de protéger les données privées de ses clients. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est j'ai pris cet exemple pour montrer que ce livre d'Apocalypse, c'est impossible de le lire, de le déchiffrer, parce qu'il y a ce code. Et le but des codes, c'est de protéger la vie des frères en Christ pour que le message de l'Évangile ne soit pas prohibé. Donc, nous allons entrer dans cette analyse, de déchiffrer un peu ce que Jean veut transmettre. Le livre fait une description de la nouvelle Jérusalem qui va descendre resplendissant et brillant à cause de sa fondation. Une fondation ornée de toutes sortes de pierres précieuses. Et je vais vous les énumérer ici. Jaspe, saphir, agate, émeraude, onyx, sardoine, chrysolite, béryl, topaze, chrysoprase, turquoise et améthyste. Voilà les 12 pierres. Et au verset 22, l'auteur parle qu'il n'y avait pas de temple au milieu de la cité. Pourtant, il parle de Jérusalem, une nouvelle Jérusalem. Et cette observation a fort étonné l'auteur parce que quand on parle de Jérusalem, qu'est-ce qu'on pense tout de suite ? Le temple, n'est-ce pas ? Sans le temple, Jérusalem n'est plus la cité éternelle. Ce qui fait de cette cité comme étant une ville sainte, c'est la présence du temple au milieu de la ville. Or, la nouvelle Jérusalem qui va descendre dans la vision de Jean, c'est une Jérusalem sans le temple. Et même moi, j'étais bloqué au moment où j'ai fait la préparation. Je dis, c'est quoi cette histoire? Et en lisant cela, j'ai fait le lien entre ces pierres de la fondation de la nouvelle Jérusalem et les pierres du pectoral du grand prêtre. Rappelez-vous, le grand prêtre Aaron, il avait un pectoral où il y avait 12 pierres sur sa poitrine. Et je me suis amusé comme un petit enfant à voir un peu ces 12 pierres sur le pectoral. Et j'ai retrouvé toutes ces pierres-là sur ce pectoral. Les 12 pierres, les 12 sortes de pierres qui se trouvaient sur le pectoral d'Aaron se retrouvaient aussi dans cette fondation de la Nouvelle Jérusalem. Sauf, il y avait quelques-unes qui ne sont pas là, à l'exception de l'onyx et de la turquoise. Les ressemblances et les différences des listes de pierres précieuses qu'on trouve dans ce texte, et sur le pectoral d'Aaron, sur qui se trouve sur le pectoral de la Nouvelle Jérusalem, plus l'absence du temple m'a poussé à cette réflexion suivante. La Nouvelle Jérusalem annoncée par le livre de l'Apocalypse montre que nous n'aurons plus besoin du temple pour apporter nos sacrifices. Dans cette Nouvelle Jérusalem, tout le monde est prêtre. Voilà. Il n'y aura plus de prêtre désigné. Tout le monde est prêtre. Selon 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il est dit « Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, les, mais pas le, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. » Voilà pourquoi il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de temple, puisque nous faisons tous partie de cette équipe de prêtres. Il n'existe pas de hiérarchie de sainteté. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont tous appelés les saints, les prêtres. Et ces titres auparavant étaient destinés qu'à une poignée de personnes. Mais là, Dieu a ouvert l'accès à son trône, qui fut autrefois fortement éloigné et inaccessible pour Monsieur Tout-le-Monde. Et cet accès est rendu possible grâce à Jésus, qui est annoncé comme le grand prêtre. Et nous allons lire un texte dans Hébreux chapitre 4, les versets 14 à 16, qui nous l'explique. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, au nom de Jésus. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Alors approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Donc Jésus n'est pas un intermédiaire avec le Père. Jésus n'est pas intermédiaire comme les prêtres qui étaient tout seuls dans la partie très sainte. Parce que rappelez-vous, dans le temple, il y avait le grand prêtre qui pouvait entrer dans la partie sainte et très sainte, et les autres attendaient à l'extérieur. Mais avec notre grand prêtre, Jésus-Christ, nous avons aussi accès au Père. Il nous a amenés avec lui auprès du Père. Et c'est pour cette raison que nous célébrons l'Ascension. L'Ascension, ce n'est pas juste une histoire où Jésus est revenu vers le Père. Mais quand il est monté au Père, c'est là qu'il nous dit « Suis-moi ». Et vous aurez aussi votre place tout près de moi. Jésus auprès du Père, et nous sommes aussi à la droite du Père. C'est pour cela que nous sommes appelés prêtres. Nous sommes appelés prêtres pour implorer son pardon, directement. On n'a plus besoin de passer par les saints. On n'a plus besoin de passer par le prêtre. On n'a plus besoin de passer par le pasteur. Le pasteur n'est pas un intermédiaire de Dieu. Le prêtre n'est pas un intermédiaire de Dieu. Nous sommes tous prêtres devant Dieu. Nous avons tous accès dans ce lieu céleste grâce à Jésus pour intercéder, pour prier. Et même nos petits-enfants, quand ils prient, Dieu les écoute. C'est bien. Cette image-là est vraiment incroyable. Un petit enfant, Dieu prend la peine d'écouter un enfant de 2 ans. Ça, on ne le voit pas dans l'Ancien Testament. C'est grâce à Jésus tout ça. Avions-nous pensé l'ampleur de cette grâce que Jésus nous donne? Non seulement nous sommes sauvés, mais nous pouvons déjà avoir accès au royaume de Dieu dès maintenant. Rappelons-nous de ce que Jésus avait dit à Nathanaël, son disciple. « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc ceux qui ont Jésus en eux, le ciel s'ouvre déjà pour eux. Les anges descendent et montent sur nous, puisque nous avons le Christ en nous. Le royaume de Dieu est déjà accessible. À chaque fois que nous appelons le Père, le ciel s'ouvre. Croyez-le, même si vous ne le voyez pas. En Jésus-Christ, nous sommes déjà en relation dans cette réalité céleste. Quand nous prions, rappelez-vous, nous entrons dans une dimension divine. Nous nous présentons devant Dieu, devant son trône. Calvin parle aussi qu'il y a une sorte, il explique cela comme une sorte d'échelle qui relie le ciel et la terre à travers les sacrements, dit-il. Voilà ce qu'il a dit. La scène, la Sainte Cène, et tous les sacrements nous doivent servir comme d'échelle pour nous faire monter en haut afin d'approcher Dieu. Voyez-vous, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, de formidable d'entendre cela. Bref, nous vivons déjà les réalités du temps dernier. Nous n'attendons plus ce grand jour, nous sommes dans les temps derniers. Il se peut que les gens pensent que nous sommes des mystiques quand on dit cela. C'est difficile de l'accepter, de le croire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici-bas, sur cette terre de misère, sur cette terre de malheur, Dieu est déjà présent. Dieu est déjà au milieu de vous. Dieu est à la fois transcendant, comme je l'ai dit au tout début de ce culte, et il est aussi immanent. Il est transcendant parce qu'il est au-dessus de tout et dépasse l'univers, puisqu'il est trois fois saint. Il siège sur son trône avec toute sa puissance et sa gloire, mais aussi c'est un Dieu immanent, accessible, et se veut proche de l'homme dans son humanité. Il habite aussi cet univers et peut habiter en même temps dans chacun d'entre nous. Et ça, c'est incompréhensible. Comment est-ce possible, quand on parle d'omniprésence de Dieu, Dieu est présent dans le monde entier, mais il est aussi en nous. Et cette proximité avec Dieu était impensable dans l'ancienne alliance. Mais en Jésus, non seulement elle est possible, mais elle va encore plus loin que cela. Voilà ce qu'il est dit dans Jean chapitre 14, verset 23, comme on a dit tout à l'heure. Jésus lui répondit, « Celui qui m'aime obéira à ce que je dis. » Et écoutez bien la suite. « Mon Père l'aimera, nous, c'est-à-dire lui et le Père, nous viendrons à lui. Mon Père et moi, nous habiterons chez lui. » Je me suis regardé dans le miroir, j'ai dit, comment est-ce possible? Ce Dieu immense, comment il peut habiter en moi? Ça, c'est un miracle. Il y a des théologiens qui n'acceptent pas cela parce que dans leur raisonnement, il est impossible pour notre corps si petit, si limité, que Dieu puisse vivre en nous. Oui. Dans la logique, c'est impossible. Mais il ne faut pas prendre ce que j'ai dit ici à la lettre comme il le pense. Mes chers amis, je ne prétends pas savoir ce que Jésus avait dans sa pensée quand il avait dit cela. Mais je ne sais qu'une seule chose. Il a dit, « Mon Père et moi, nous habiterons chez toi. » Et moi, je crois en ça. Peut-être c'est une foi d'un enfant. Peu importe, mais moi j'y crois que Jésus et le Père est en moi, malgré mes péchés, malgré ma faiblesse. Ce n'est pas mon problème. Comment cela pourrait se faire? Ça, c'est pas mon problème. Il est Dieu, il a tout le pouvoir. C'est un peu comme notre incompréhension. Et l'incompréhension de Nicodème, comment est-ce possible de retourner dans le ventre de ma mère? Ça, c'est pas ton problème, dit Jésus. Dieu peut tout faire. C'est peut-être irréel, impensable, mais je le crois. Parce que mon Dieu, ton Dieu, il est un Dieu immanent, est un Dieu transcendant. Et pour terminer cette méditation, je reprends le verset où Jésus disait « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. » J'y crois fermement. J'entrerai chez lui. Il y a une tradition d'église, dans une autre église, une fois j'ai visité une église, il y avait quelqu'un qui a préparé à manger, et ils ont fait le couvert. Ils ont fait un couvert en plus. Moi je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir? Non, ça c'est la part du Christ. Ça m'a touché. C'est vraiment une présence réelle. Nous on prie souvent avant de manger, mais c'est juste comme ça, Seigneur, bénis notre pain. Amen. Mais c'est aussi une invitation, viens manger avec nous, Seigneur. Il le dit. Alors n'hésitez pas de le faire, parce qu'il est aussi votre ami, même s'il est votre Dieu. Amen.